I'm gonna send him to outer space.
Une pause, un podcast et une révolution. www.libradio.org.
To find another race. I'm gonna send him to outer space.
Voilà, alors nous sommes aujourd'hui au parc des Cropettes à l'occasion de la journée d'action pour la justice climatique et la justice sociale. Nous sommes en compagnie de deux personnes qui vont se présenter. Je veux pas le faire moi, parce que malgré le fait qu'on se connaisse déjà, je ne sais pas avec quelle casquette vous voulez être présenté à ce moment-là. On vient de sortir de l'alerte climatique et nous sommes là un petit moment aujourd'hui et une série d'activités vont avoir cours, notamment à Plein Palais un petit peu plus tard, avec, pour couronner la journée, une manifestation qui, au départ de Plein Palais à 17h. Qu'est-ce qu'on fait ici ensemble, aujourd'hui, dans le parc des Cropettes?
Oui, alors bonjour. Alors moi, c'est Nadine Frey, je représente le syndicat UNIA. Mais aujourd'hui, on est ici pour parler du climat. Aujourd'hui, on est ici pour se réunir, pour s'allier tous ensemble, pour dire qu'il y a un problème, il y a plusieurs problèmes systémiques et s'alimentent les uns les autres. Notamment moi, représentant le syndicat, je suis là pour parler des conditions sociales, des conditions de travail, des individus, et comment est-ce que le dérèglement climatique impacte ces conditions de travail, comment est-ce que la justice climatique et la justice sociale sont liées l'une à l'autre. Et comment est-ce qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui, ça l'a toujours été, mais ça l'est d'autant plus, de créer un front uni et commun pour pouvoir exiger des nouvelles conditions sociales, climatiques, exiger un système qui fonctionne différemment, un système où le pouvoir est plus réparti, est plus démocratique, et où on respecte les êtres humains, donc les travailleurs et les travailleuses, mais également la nature.
Ouais. Alors on voit l'importance de la convergence des luttes, parce que dans ce que tu viens de dire là, il y a déjà plein de notions qui ont été mobilisées, et notamment celle de la convergence des luttes. Est-ce que, et puis je te laisserai te présenter, est-ce que dans les personnes qui déambulent au travers du parc et que vous avez pu approcher, eh bien, est-ce qu'on sent cette importance de la convergence des luttes et ce lien qui nous paraît d'une certaine manière évident, mais peut-être pas à tout le monde, entre la justice climatique et la justice sociale?
Bonjour, alors moi c'est Patrick Chapuis, je suis représentant du SSP auprès de la Grève pour l'Avenir. Et oui, la convergence des luttes, c'est une nécessité. Tout simplement parce que le problème, c'est le système, et que le système nous affecte toutes et tous. Donc là, nous avons au Parc des Cropettes, alors que nous venons d'avoir un rayon de soleil et que ça fait bien plaisir au moral, nous venons d'avoir effectivement l'urgence, la sirène, Qui a retenti de l'urgence climatique. Et si je me retourne, je vois donc des stands des syndicats, des stands des partis politiques, des stands des associations. Derrière moi, c'est la convergence des luttes en action. C'est-à-dire que, oui, les travailleurs et les travailleuses, notamment vu que je représente le SSP, donc les services publics, sont en première ligne. Ils étaient en première ligne lors de la crise Covid. Ils seront en première ligne à chaque fois qu'il y aura des crises, parce que c'est vraiment la base de la société commune. De défendre les services publics, c'est de défendre le bien commun. Et nous voyons aussi les partis politiques qui sont engagés contre ce système capitaliste qui exploite les plus faibles. Nous voyons les associations, notamment avec l'écoféminisme, qui défendent les plus faibles, avec l'éco-antiracisme qui défend aussi les personnes qui sont opprimées déjà à la base et qui sont encore plus fragilisées lorsqu'il y a des situations catastrophiques. Voilà pourquoi la convergence des luttes est nécessaire, parce que notre ennemi est extrêmement puissant, extrêmement déterminé et qui nous affecte tous, et que son outil de prédilection, c'est la division. Et isoler les situations, isoler les causes des effets, isoler les victimes et après les dresser les unes contre les autres, c'est la meilleure stratégie qu'a eu la droite en général, public contre privé. Ça a toujours très très bien fonctionné, et nous on refuse d'aller dans ce système là
Tu viens de le dire, il y a un mot-clé que tu as utilisé qui est celui de division. J'aimerais peut-être qu'on s'arrête quelques secondes là en vous posant cette question-là sur les personnes que vous avez approchées aujourd'hui. Eh bien, selon vous, est-ce que vous vous apercevez qu'une conscience surgit ou que les lignes ont bougé? Et dans le cas de la négative, comment est-ce qu'on expliquerait justement que les personnes, comme un seul homme, ne rejoignent pas finalement des luttes qui paraissent être urgente, très urgente et assez évidente dans l'analyse qu'on peut en faire?
Moi, ta question me fait penser à l'allocution de la démission de Nicolas Hulot lorsqu'il était à l'antenne de la radio et il a dit « Je démissionne et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas dans la rue des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui protègent chaque jour contre l'urgence climatique pour forcer les politiques à en faire davantage. Et alors que moi, étant ministre, je suis pieds et poings liés. J'ai besoin justement que la rue, j'ai besoin que la population agisse frontalement. Et à la fois, c'était magnifique parce que nous avions là un politique, je veux dire un ministre, et qui avait un poste extrêmement important en France. Je crois que c'était le numéro 2 ou le numéro 3 du gouvernement. Donc, c'est de dire à quel point il avait un poids considérable. Se rend compte que ce n'était qu'une façade et qu'en fait, la structure du gouvernement, la structure de l'économie, la structure du système capitaliste verrouille complètement toutes les possibilités, isole les personnes et leur laisse dire « voilà, maintenant tu n'as plus qu'une liberté individuelle, culpabilisante, réduite, reste dans le cadre ». Ce cadre-là, il faut le faire sauter. Sinon, on sera toujours prisonnier et on sera comme des grenouilles dans une cocotte minute en train d'étouffer à l'intérieur sans se rendre compte pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire sauter le chapeau. Hein.
Ouais, si je peux rajouter, c'est exactement comme tu dis, il y a aussi une question d'acquérir une conscience de classe. C'est-à-dire que voilà, les crises, elles profitent à certains et pas à d'autres. Et les autres, c'est en l'occurrence la majorité, c'est le peuple, c'est les gens. Et ce qui est difficile, c'est effectivement cette conscience de classe, comment l'acquérir. Surtout que, comme l'a précisé le camarade, le système est extrêmement fort pour nous faire voir des intérêts qui ne sont pas les nôtres, pour nous faire croire à des intérêts là où ils ne sont pas. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut se rejoindre sur des intérêts communs, parce qu'en fait, on en a. Si c'est les seuls intérêts qu'on a, c'est les seuls communs. Donc voilà, c'est toute la question de l'organisation et c'est évidemment, je pense, la question que les mouvements sociaux se posent depuis des années. Qu'on continue à construire, c'est quelque chose sur le long terme. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer à s'organiser, continuer à discuter. Ce n'est pas une mobilisation, ce n'est pas un événement qui va changer la donne, mais c'est un travail sur le long terme d'arrache-pied, de communication, de discussion avec les gens pour faire valoir nos intérêts communs et créer cette alliance, cette conscience de classe.
Je rajouterais juste encore une chose, ça me fait penser à cet article dans Le Monde Diplomatique de Serge Halimi qui décriait le slogan des 1%. 1%, oui, c'est vrai que ça nous parle, parce que c'est clairement les plus riches et qui sont les plus polluants et qui sont les plus destructeurs de l'environnement. Mais derrière ces 1%, il y a encore 9, 10 autres pourcents qui sont ceux qui profitent justement de ces 1%, qui travaillent avec eux en étant vraiment le plus proche. Et derrière, du coup, cette masse des 10% qui ont tous les leviers économiques, tous les capitaux financiers, capitaux symboliques, capitaux sociaux, eh bien derrière, il y a une grande masse des 80, 75% qui, eux, subissent et qui, eux, sont divisés, qui, eux, sont opprimés et qui n'ont que comme horizon que la société leur vend. L'épitoumé, ce dont parlait Frédéric Lordon, une sorte de désirologie, c'est cet objectif d'être riche, faire du pognon. Je reprends encore aux paroles de Macron qui disait en France, l'objectif, c'est que chaque jeune devienne milliardaire, ait envie de devenir milliardaire. Non, notre objectif à nous, ici, à Genève, en Suisse et dans la grève pour l'avenir, c'est que chaque jeune, chaque travailleur, chaque travailleuse ait une conscience, non pas de consommateur, mais de citoyen.
J'aurais encore voulu vous questionner sur le monde du travail. Vous êtes syndicaliste, donc plus proche peut-être du monde du travail que d'autres personnes, en tout cas des observateurs alertes de ce qui se passe dans le monde du travail. Que répondez-vous à ces travailleuses et à ces travailleurs qui disent « Oui, mais moi, j'ai un employeur qui n'est pas évident, avec lequel je dois composer. Une grève, c'est facile à dire, est-ce que c'est facile à faire ? » Est-ce que de ce côté-là, est-ce qu'on n'a pas plus tendance à prendre appui sur, par exemple, des étudiantes et des étudiants dont on sait que peut-être, et encore, c'est à voir ? Il est plus facile de se mobiliser et d'acquérir cette conscience de classe que vous appelez de vos voeux, alors que dans le monde du travail, eh bien, avec toutes les difficultés qui sont en plus à leur fait avec la crise sanitaire qui nous encercle, est-ce là une difficulté supplémentaire pour vous ? Est-ce que le monde du travail, selon vous, est-il réformable ? Est-ce qu'on peut le révolutionner ? Est-ce qu'on peut arriver à ce que les travailleuses et les travailleurs, déclenchent quelque chose, puissent prendre le temps, puissent avoir cette conscience, puissent avoir les moyens de déclencher quelque chose ? Parce qu'effectivement, une personne qui pourrait être également même consciente du fait, elle pourrait aussi réagir en disant « Voilà, j'en suis consciente ou conscient, et c'est très bien. Mais au-delà de ça, je n'irai pas parce que des risques sont tels que, et notamment à l'aune de la crise sanitaire qui nous assiège en ce moment. »
Non, mais tout à fait. C'est la réalité, en fait, aujourd'hui, des travailleurs et des travailleuses, que de l'impossibilité de pouvoir faire mener des grèves, et surtout des grèves politiques, parce que c'est interdit en Suisse, en fait, les grèves politiques. Donc en fait, pour avoir le droit de faire grève, il faut avoir des revendications qu'il faut porter à son employeur, etc., ce qui est très compliqué. Sans parler de la réalité aujourd'hui des travailleurs et des travailleuses qui sont morcelés. On a énormément aujourd'hui de contrats extrêmement précaires, que ce soit les contrats sur appel ou dans l'économie domestique, ou toute cette ces nouveaux contrats qui émergent et ces nouvelles manières d'avoir un travail, mais qui sont extrêmement difficiles du coup à organiser. Et c'est vrai que c'est un défi pour le syndicat, en tout cas chez nous à UNIA. C'est un défi qu'on souhaite relever. On n'a pas encore toutes les clés de comment le faire, mais en tout cas on est en contact avec ces travailleurs et ces travailleuses là. Pour la question que tu posais concernant qu'est-ce qu'on peut révolutionner finalement le monde du travail, je pense que c'est pas notre rôle de dire ce qui va se passer ou ce qu'on aimerait faire. Notre rôle, c'est d'organiser les gens et donner le pouvoir aux gens de décider eux-mêmes, ensemble, de manière organisée et collective, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et c'est là où moi je vois notre rôle en tant que syndicat, en tant que militant, que ce soit dans un syndicat ou pas, c'est d'organiser. Je pense que c'est notre tâche première, c'est d'organiser les gens pour qu'ils puissent se retrouver, débattre, discuter et réfléchir ensemble à ce qu'ils veulent faire.
Merci. Alors moi j'aimerais revenir sur ce que tu as dit au début. Tu as parlé des travailleurs qui s'appuieraient sur les jeunes, alors qu'en fait c'est l'inverse qui s'est produit. C'est vraiment les jeunes de la grève pour le climat qui sont venus, qui ont lancé un appel auprès des syndicats pour être épaulés, pour leur dire « mais enfin ce n'est pas notre seule lutte, vous êtes aussi concernés, vous êtes aussi actifs et vous avez aussi un pouvoir d'action ». Et tout à fait d'accord pour dire qu'il y a des difficultés, il y a des blocages. Ici, moi je peux vraiment parler en tant que représentant du service public, le droit de grève nous a été refusé. C'est incroyable, c'est vraiment, alors que nous avions un rendez-vous avec la conseillère d'État pour lui exposer nos cahiers de revendications, ce cahier de revendications n'a pas pu être donné parce que la conseillère d'État a annulé le rendez-vous le jour même et a refusé de nous en donner un nouveau par la suite, pour ensuite nous avertir qu'elle n'avait pas reçu de cahier de revendications et que notre grève du coup n'était pas légitime. Donc il y a des blocages dans le privé, il y a aussi des blocages dans le public, il y a aussi des blocages dans la tête des gens, c'est-à-dire que le sujet même est anxiogène. Quand je regarde la presse, je vois que hier, un iceberg de 175 km de long sur 25 km de large s'est défait du Groenland, je crois. Non mais évidemment que c'est hallucinant. Ce sont des chiffres qu'on ne peut pas comprendre. Quand on parle de 1,5 degrés de degrés de plus, c'est des chiffres qui sont complètement abstraits, soit qui font peur, soit qui sont insaisissables. Et du coup, c'est extrêmement difficile de mobiliser les gens actuellement parce que pour eux, ce sont soit des défis qui leur font trop peur, soit des défis qui sont trop abstraits. Enfin, le dernier point, comme on l'a dit, c'est le danger par rapport au travail. Tout à fait, il y a des gens qui ont peur, qui sont dans une précarité, non seulement à cause de la Covid, mais aussi à cause du système économique en général. Et à ces personnes-là, j'ai envie de leur dire, il faut commencer par prendre, par l'action, dans nos têtes, dans nos actes, le pouvoir. Une fois qu'on aura réussi à se mettre en mouvement, une fois qu'on aura réussi à se mettre en action, rien qu'à aller manifester, rien qu'à venir sur un stand se renseigner, la première force, c'est celle de l'esprit, c'est celle de se dire « Ok, il y a une difficulté, je ne fais pas l'autruche, j'observe et je cherche les solutions. » Et à partir de là, on se sent fort et on est capable, sur son lieu de travail, d'en parler à ses collègues, d'organiser des choses et peut-être finalement un jour de prendre le pouvoir.
Une dernière question, et puis après je vous laisserai reprendre le cours de la journée pour aller dans le sens de quelques mots énoncés par Damasio. Nous faut-il des archipels, des îlots de résistance, et doivent-ils ces îlots et ces archipels se rejoindre ? Cette question préfigure le deuxième volet qui est le suivant. Selon vous, comment est-ce qu'on sort de l'impasse ? Est-ce que de vos côtés, vous sentez que d'une certaine manière tout de même, les syndicats, UNIA, le SSP, ont le vent en poupe ? Est-ce que les personnes viennent vers vous de plus en plus, justement comme tu l'as dit concernant les étudiantes et les étudiants ? Est-ce qu'on sent que les personnes quand même, pas à pas, vous rejoignent ? Ou est-ce que vous-même, de votre côté, à vos appels, on sent que quelque chose émerge ? Qui puisse être, parce que je pense que parmi les cheminements que vous proposez, eh bien c'est que qu'on soit de plus en plus nombreux à se syndiquer et à participer de ces luttes collectives. Parce qu'on ne l'a pas dit, et peut-être que pour en terminer, ce serait intéressant également de rappeler combien les luttes collectives sont importantes. Le fait de pouvoir compter les unes et les uns sur les autres, hein, puisse nous trouver dans un confort et dans une capacité de lutter. Alors cette notion collective, de lutte collective, pour vous est-elle centrale ? Et selon vous, est-ce que vous sentez que le syndicalisme, qui pourrait être une des solutions en tout cas un des outils pour sortir de l'impasse. Aurait-il, selon vous, le vent en poupe?
Alors, je vais reprendre en fait de nouveau ce que Lordon disait, parce que je suis un grand fan de Lordon, par rapport à Damasio et aux îlots. Je pense que c'est très très bien et qu'il faut des exemples et le plus d'actions possible. Pour le dire autrement, il faut que les penseurs pensent, il faut que les peintres peignent, il faut que les écrivains écrivent, il faut que les activistes s'activent, il faut que tout le monde prenne en compte à son échelle cette problématique qui est vraiment celle de la survie de l'espèce humaine. Maintenant, les îlots ne suffisent pas, les îlots ne font pas corps. C'est justement, ils sont séparés les uns des autres. C'est leur nature même. Et il faut donc faire quelque chose de contre-nature, j'ai envie de dire, pour justement relier ces îlots entre eux. Le principe, justement, de relier de faire une action globale, c'est de faire une action politique. C'est justement pour ça, de nouveau, comme le dit Lordon, qu'il faut s'appuyer sur des structures préexistantes. Les structures, on les voit derrière nous, avec les stands, ce sont les syndicats, les partis politiques, les associations. Donc oui, les gens viennent, alors ils viennent des fois plutôt par moment plutôt dans des associations, plutôt des fois dans des partis politiques, plutôt des fois dans des syndicats, ça dépend des phases. Nous on accompagne et c'est vraiment une convergence des luttes, on essaye vraiment d'être là pour soutenir. Il y avait le slogan qui disait ZAD partout, moi j'ai envie de dire plutôt action dans toutes les têtes.
Là, je vous anticipe déjà la dernière question, ce serait tout simplement si vous-même vous avez des appels à formuler, des appels à lancer, et également pour que des personnes puissent, après tout ce qu'elles ont entendu là, pour qu'elles puissent aller un peu plus loin. On a parlé de Lordon, il y aura probablement d'autres personnes auxquelles vous pourriez vous référer et également vous rejoindre, site internet et adresse de contact si des personnes souhaitent en savoir plus sur l'UNIA, sur le SSP.
Oui, juste pour revenir peut-être sur la question des îlots et des jonctions entre les différentes luttes. Ces îlots, effectivement, sont très importants. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a des spécialisations dans différentes luttes. Et c'est ce que tu disais aussi, qui est très important, c'est de pouvoir faire émerger ce qui est en dessous des îles, c'est-à-dire la terre commune, en fait, et pouvoir joindre. Et je pense qu'en tant que syndicat, non seulement on a beaucoup à apporter à certains mouvements, mais on a également beaucoup à apprendre de ces mouvements. Et c'est un échange, un dialogue qui doit avoir lieu de nouveau, toujours dans le même objectif, de créer cette conscience de classe, de créer ce lien entre nous pour pouvoir porter ensemble des objectifs politiques. Je suis aussi une inconditionnelle de Lordon et en ce moment je suis à fond dedans encore et de nouveau. Je vais conseiller de le lire, mais surtout de voir les débats en fait qui mènent, parce que c'est là où c'est intéressant, c'est là où on voit les divergences qui existent dans la gauche et les points de rupture. Que faire maintenant? Rejoindre le syndicat, rejoindre le mouvement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que le camarade l'a expliqué, il faut déjà dépasser des barrières mentales, de passer à l'action, soit. Et ensuite, il y a énormément de portes d'entrée. Alors, bien souvent, je pense que c'est une critique qui reste valable, c'est l'accessibilité de ces luttes ou de ces mouvements-là aux personnes. Je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là. Par contre, les portes, elles existent et elles sont ouvertes et il y a une volonté d'accueillir et d'agrandir, en fait, ces mouvements-là. Je pense que c'est justement un des objectifs, c'est de l'agrandir. Donc, les portes d'entrée existent. Celle du syndicat en est une, évidemment. Moi, j'invite toutes les personnes qui seraient intéressées à être membres d'UNIA, se syndiquer ou à avoir des informations à nous contacter. On a également mis en place depuis un an un groupe de travail climat interne. Donc, par rapport à la question du climat, on travaille sur l'externe au niveau régional, à l'interne, aussi au niveau national. Voilà, il y a plusieurs couches. Disons qu'on a toujours besoin de bras, on a toujours besoin de vie, et c'est comme ça qu'on va pouvoir construire un mouvement qui est fort, solide et multiforme, et c'est ce dont on a besoin.
Merci beaucoup. Et pour le SSP ?
Merci. Alors évidemment, le SSP a un site internet. Nous invitons tout le monde à venir défendre les intérêts de la communauté, ce qui sont les intérêts des services publics, qui évidemment défendent la communauté. Et concernant les ressources, je pensais évidemment donc à Lordon, à Andreas Malm, qui va d'ailleurs avoir une conférence jointe avec Lordon prochainement pour évoquer peut-être des liens entre la réflexion de Lordon sur l'État, les structures et sur la destruction de l'environnement, les travaux de Malm, je me réjouis vraiment de cette future réunion. Il y a les travaux de Friot notamment sur le salaire à vie, ou ce que Lordon a renommé la garantie économique générale, qui nous permettrait de sortir justement de ce cadre, de ces structures aliénantes et écocides qui se nomment le capitalisme. Et enfin, nous avons également des groupes de réflexion climatique. Nous, au SSP, nous avons aussi, nous sommes en lien avec nos partenaires, nous visons la convergence. Il y a aussi des, voilà, derrière nous, je vois des associations, les écosocialistes, les diverses associations. Donc, on encourage vraiment tout le monde à rentrer par la voie où ils se sentent les plus légitimes et les plus concernés. Parce qu'il ne faut pas faire les choses contre nature, il faut vraiment aller là où on a de l'intérêt. Si évidemment, le travail pour nous, c'est une base essentielle, quand on est des travailleurs, et c'est par là qu'on agit dans la société, mais on peut se reconnaître aussi d'une autre manière. Donc, n'hésitez pas à trouver la casquette qui vous correspond le mieux et à vous investir.
Eh bien, je vous remercie tous les deux. Si on pouvait résumer les propos qui ont été tenus, pourrait-on parler de convergence des luttes, d'action tous azimuts également, et d'éducation populaire? Est-ce que, voilà, trois éléments?
Je pense que ça résume bien, ouais. Ouais.
D'accord. Je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne journée.
Merci
de justice climatique
également.
Et de justice sociale.
Merci beaucoup, au revoir.
Automédia de la masse critique, retrouve les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org.